Vous écoutez On lit pour vous.
Le nouveau terrain de jeu de Carl Ouimet, un texte de Mélanie Marquis, paru le 3 janvier 2026 dans la presse. Après avoir joué pour l'Impact de Montréal, les Red Bulls de New York ou encore l'Atlético d'Ottawa, le défenseur central Carl Ouimet a intégré pour la saison 2025-2026 l'équipe du Maisonneuve-Doschlaga-Maisonneuve, l'équipe école, pour précision. L'ancien joueur de soccer professionnel a accroché ses souliers à crampons il y a près de 3 ans pour venir gonfler les rangs des enseignants du primaire. Cette année, Carl Ouimet a décroché un poste de 4e année à l'école Maisonneuve, dans le sud-est de Montréal. Les autres élèves sont jaloux, surtout les 5e années, lance Romy, qui est restée dans le local de classe pendant la récréation de l'après-midi en raison d'une blessure à un bras. La cloche sonne. Ses camarades entrent, les uns après les autres, pour la dernière période de la journée. Au menu, en ce mardi du mois de décembre 2025, les livres de recettes. Il faudra identifier le mode du verbe, l'organisation du texte, les unités de mesure, alouette. En guise d'amorce, M. Carl projette au tableau blanc interactif un extrait du dessin animé Astérix et Cléopâtre, le pudding à l'arsenic. Les élèves se mettent ensuite au travail. Leur enseignant zigzague entre les bureaux afin de les aiguiller au besoin. L'indicatif présent? Vous êtes certain de ça? C'est écrit « Je mélange, tu mélanges, il mélange » intervient-il auprès d'une équipe qui bloque sur cette partie de la tâche. Après un retour sur l'activité d'apprentissage, l'enseignant leur rappelle que, la semaine prochaine, il y aura un atelier de cuisine, un vrai. Vient ensuite le moment de la dégustation de brownies. On souligne les anniversaires de 4 enfants. Puis, la fin des classes. Alors, ce prof athlète, Frédéric, c'est cool, parce que les vendredis, on va jouer au soccer et il nous montre des trucs, s'anime l'élève en montant la fermeture éclair de son manteau. Dans une classe, comme sur un terrain. L'enseignant apparaît, cela dit, on ne peut plus sérieux lorsqu'il s'assoit pour parler de sa nouvelle vie. J'avais une vision de mon après-carrière. J'adore les enfants, j'adore interagir dans un milieu qui bouge, explique Carl Ouimet. C'est comme une grosse boule d'énergie, l'école. Il y a toujours quelque chose qui se passe, enchaîne le novice en enseignement dans sa classe de l'école, fraîchement restaurée de fond en comble. En quoi les aptitudes sportives qu'il a acquises sur le terrain de soccer l'aident-elles dans sa pratique? Au soccer, tu as besoin de t'adapter tout le temps, de prendre des décisions rapides. Et c'est la même chose en enseignement, répond Carl Ouimet. J'aime beaucoup ça, ajoute-t-il. J'aime aussi beaucoup le fait d'être toujours sur mes jambes. Le jeune père de famille, il a 3 enfants âgés de 4 ans et moins, puise dans son vocabulaire de sportif pour comparer un local de classe à un terrain de soccer. Positionnement, situation de 2 contre 1, couper les angles, chasser l'athlète et il revient au galop. L'enseignement. Carl Ouimet est cependant passé près d'aboutir ailleurs. Avant de ranger son maillot et de partir officiellement à la retraite, il a occupé le poste de responsable du développement des affaires de l'Atlético Ottawa. L'aventure a été brève, même si, sur papier, il s'agissait d'une combinaison gagnante. Car l'homme est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal. Entre une carrière en administration et en éducation, il a opté pour la seconde. Je ne voulais pas me ramasser dans une job de bureau ou me retrouver dans un poste qui pouvait disparaître à cause de l'intelligence artificielle, expose-t-il. Le réseau québécois lui a ouvert grand ses portes. Le voici titulaire d'une autorisation provisoire d'enseigner, une permission délivrée à ceux qui s'inscrivent dans un parcours de formation en vue de décrocher un brevet. Mais au fond, pour Carl Ouimet, c'est un retour aux sources. J'avais commencé un baccalauréat en enseignement de l'éducation physique, mais avec le soccer, j'étais avec l'Impact dans le temps, je ne pouvais pas faire mes stages, raconte-t-il. Il s'est rabattu sur HEC Montréal, histoire d'avoir un diplôme en poche. Il n'y a pas beaucoup de monde qui pense à ça, mais moi, mes parents, ça a toujours été l'école, l'école, l'école. Et ça fait partie de mes valeurs, expose-t-il, dans une école. Et, à l'école Maisonneuve, il ne passe pas inaperçu, convient-il humblement. Quand on fait des projets avec des iPads ou des ordinateurs, il y en a toujours un qui va sortir mes vidéos de faits saillants, de highlights de ma carrière, raconte l'ancien de la MLS. Disons que je me fais googler pas mal, sourit-il. C'était le nouveau terrain de jeu de Carl Ouimet, un texte de Mélanie Marquis, paru le 3 janvier 2026 dans la presse.
Les conseils d'un agent de bord pour un vol sans stress. Un texte d'Olivia Lévy, paru le 28 janvier 2026 dans la presse. Dans le guide anti-stress de l'avion, l'agent de bord français Mathieu Alouche donne tous les conseils pour mieux vivre nos voyages en avion et nous dit tout sur son métier. On a sauté sur l'occasion pour poser toutes nos questions à celui qui est suivi par 130 000 personnes sur sa page Instagram, @MathieuLeSteward. Quelles sont les questions que les passagers posent le plus? Est-ce que les turbulences sont dangereuses? C'est la question qui revient tout le temps. Il n'y a rien de plus normal qu'une turbulence. C'est désagréable, ça va bouger, ça peut surprendre et faire peur, mais l'avion ne tombera pas. C'est simplement que l'avion bouge pendant le vol. Beaucoup de passagers encore me confient avoir peur de l'avion et du décollage. On dit que c'est une personne sur trois qui a peur en avion, mais souvent, leur peur renvoie à autre chose. Ça peut être de la claustrophobie, la peur de perdre le contrôle. Certains sont agoraphobes ou encore n'aiment pas voler au-dessus de l'océan. Il y a des petits gestes qui rassurent. Prendre la main, serrer un objet. La respiration aussi est un outil puissant pour apaiser. Pourquoi l'équipage observe-t-il les passagers quand ils entrent dans l'avion? On regarde tout le monde. La sécurité de tous les passagers est notre priorité. On observe leur comportement. On voit si une personne est trop alcoolisée. Si elle est trop ivre, on la sortira de l'avion. On repère aussi les femmes enceintes pour les accompagner au mieux, les familles avec des bébés. On repère aussi les personnes qui sont mal à l'aise dans un avion. On passera les voir à leur siège pour les rassurer. Est-ce qu'il y a plus de passagers indisciplinés aujourd'hui? À titre personnel, je n'observe pas de passagers plus indisciplinés. Ça fait 7 ans que je suis agent de bord, mais je lis des articles où on observe plus de problèmes avec les passagers. Ça dépend des destinations, des compagnies aériennes. Oui, les gens se permettent un peu tout et n'importe quoi dans notre société aujourd'hui. Il y a peut-être plus d'intolérance pour la personne qui baisse son siège. Pendant la pandémie, on voyait certains passagers qui ne voulaient pas mettre leur masque. Quel est le mystère du jus de tomate en vol? en altitude, la perception du goût change. L'air sec et pressurisé de la cabine alterne aux sensations sucrées et salées jusqu'à 30 % de moins. La saveur du jus de tomate reste intacte et il y a un côté réconfortant à en boire en vol. Aussi, comme on ne boit pas de jus de tomate tous les jours et qu'on prend l'avion de manière exceptionnelle, ça devient un rituel aérien. Pourquoi les pilotes ne mangent-ils pas la même chose? Pour éviter une éventuelle intoxication alimentaire, les deux pilotes mangent différemment. Ils ont deux plats différents par mesure de sécurité. Chacun reçoit un menu différent élaboré par deux chaînes de production différentes. Est-ce qu'il faut porter des bas de contention? Sur les longs trajets, je recommande de porter des bas ou chaussettes de contention. Ça favorise la circulation sanguine dans les jambes, limite les sensations de gonflement et aide à prévenir la phlébite, formation d'un caillot sanguin dans une veine. Les conditions en avion, l'immobilité prolongée, l'air sec, font augmenter la compression des jambes, le risque de phlébite, surtout en cas de déshydratation. Que dire des applaudissements lors de l'atterrissage? On ne les entend pas sur tous les vols. Ça dépend de la culture des passagers, des destinations, de l'ambiance à bord. C'est une manière d'exprimer un soulagement collectif. Je pense qu'on applaudit le pilote, l'équipage aussi, parfois. Parmi les gens qui applaudissent, il y a aussi ceux qui prennent l'avion pour la première fois et pour qui le voyage a été magique. Le voyage en avion, même s'il s'est démocratisé, reste quelque chose d'exceptionnel. Est-ce qu'en tant que PNC, personnel navigant commercial, pilote, agent de bord, vous avez une vie particulière? On est une famille à part, une corporation à part, une tribu mondiale dispersée aux quatre coins du monde. On est déconnecté du rythme normal de la vie. On passe beaucoup de temps loin de nos familles, on vit aussi avec l'équipage dans une certaine promiscuité en cabine pendant 5, 7, 10 heures. D'ailleurs, on ne vole pas toujours avec le même équipage pour ne pas créer de routine ou de mauvaises habitudes. En savoir plus. Le guide anti-stress de l'avion, Mathieu Alouche. 37 millions. Nombre de vols commerciaux réalisés en 2024. Seuls 2 ont connu un accident mortel. 4,8 milliards. Nombre de passagers transportés en avion en 2024. C'était « Les conseils d'un agent de bord pour un vol sans stress », un texte d'Olivia Lévy, paru le 28 janvier 2026 dans La Presse.
Mattel lance une nouvelle Barbie autiste, un texte de La Presse canadienne publié le 13 janvier 2026 sur le site de Nouveau. Si vous regardez la nouvelle Barbie dans les yeux, vous remarquerez peut-être qu'elle ne vous regarde pas directement. Ce léger décalage du regard est l'un des changements apportés par Mattel à la dernière nouveauté de sa gamme fashionista, la Barbie autiste. Cette poupée s'inscrit dans le cadre d'une initiative visant à représenter davantage de personnes, à l'instar des Barbie trisomiques, des Barbie aveugles munies d'une canne blanche et des Barbie équipées de prothèses de jambes. La toute dernière poupée a été créée en collaboration avec l'Autistic Self-Advocacy Network, qui a apporté des idées sur la manière dont la poupée pourrait représenter toute une gamme d'expériences vécues par certaines personnes atteintes d'autisme. La poupée est dotée de coudes et poignets articulés afin qu'elle puisse faire les mouvements de mains que certaines personnes autistes utilisent pour aider à réguler leur sens. Elle regarde légèrement sur le côté pour imiter la façon dont certaines personnes autistes évitent le contact visuel direct. Et elle porte un fidget spinner amovible car certaines personnes trouvent que cela les aide à se distraire sensoriellement. Elle porte également des écouteurs anti-bruit pour aider à réduire la surcharge sensorielle et transporte une tablette sur laquelle sont installées des applications de communication augmentative et alternative basées sur des symboles afin d'offrir une forme de communication alternative. L'autisme se présente sous différentes formes et à différents degrés, et cette poupée ne présente donc pas la seule façon dont une personne peut vivre l'autisme. Il s'agit simplement de proposer différents indices représentatifs afin que différentes personnes puissent se reconnaître dans cette poupée, explique Jamie Siegelman, responsable mondial des poupées chez Mattel. Déterminer à quoi cela pourrait ressembler a été un défi, car l'autisme englobe un large éventail de comportements et de difficultés qui varient considérablement en intensité, et bon nombre des traits associés à ce trouble ne sont pas immédiatement visibles, a dit Noor Pervez, responsable de l'engagement communautaire chez Hassan, qui a travaillé en étroite collaboration avec Mattel sur le prototype de Barbie. L'équipe de développement a débattu pour savoir s'il fallait habiller la poupée avec des vêtements moulants ou amples, a expliqué M. Pervez. Certaines personnes autistes portent des vêtements amples car elles sont sensibles au contact des coutures, tandis que d'autres portent des vêtements moulants pour avoir une meilleure perception de leur corps, a-t-il expliqué. L'équipe a finalement choisi une robe trapèze à manches courtes et jupe fluide qui réduit le contact entre le tissu et la peau. La poupée porte également des chaussures plates pour favoriser la stabilité et faciliter les mouvements, selon Mattel. L'ajout de la poupée autiste à la gamme Barbie Fashionista a également été l'occasion pour Mattel de créer une poupée dont les traits du visage s'inspirent des employés de l'entreprise en Inde et dont les tableaux d'ambiance reflètent toute une gamme de femmes d'origine indienne. Monsieur Pervez a ajouté qu'il était important que la poupée représente un segment de la communauté autiste qui est généralement sous-représenté. C'était « Mattel lance une nouvelle Barbie autiste », un texte de la presse canadienne publié le 13 janvier 2026 sur le site de Nouveau.
Où en sommes-nous avec la diversité à Montréal? Un texte de Gérard Bouchard, paru le 31 janvier 2026 dans Le Devoir. Il est urgent de passer à l'action si l'on tient à établir le statut de la métropole comme ville francophone. Dans un texte du 25 septembre 2021, j'étais intervenu sur ce sujet, mais il me paraît utile de faire le point quelques années plus tard. Avec l'arrivée de Mme Martinez Ferrada à la mairie de Montréal, il est permis d'espérer que les efforts de la précédente administration pour combattre le racisme et les diverses formes de discrimination vont se poursuivre. On sait que l'avenir culturel du Québec comme société francophone dépend beaucoup du dynamisme montréalais. Orchestrer la vie ethnoculturelle. Il est bon de rappeler que l'intégration des immigrants reste un processus à double voie. La société d'accueil TIR, elle, profit du contact avec les nouveaux venus. En retour, on doit reconnaître l'apport économique et culturel de l'immigrant à sa nouvelle patrie. À Montréal, cet apport n'est pas reconnu à sa juste valeur, faute d'une politique concertée favorisant l'intégration. Le politologue David Carpentier en a montré les conséquences dans son livre « La métropole contre la nation, la politique montréalaise d'intégration des personnes immigrantes » 2022. L'auteur soutient que les autorités montréalaises se sont détournées des principes de l'interculturalisme, ouvrant ainsi la voie au multiculturalisme canadien. Sans concurrence, ce modèle, écrit-il, est discrètement à l'œuvre dans la métropole. Un organisme très actif, mais peu écouté. Dans l'ensemble, peu de choses ont changé. En témoigne le Conseil interculturel de Montréal, CIM, un organisme consultatif dont la ville s'est dotée en 2003 pour formuler des avis et propositions visant entre autres à concevoir et mettre en œuvre une politique interculturelle. Selon des informations provenant de diverses sources, cet organisme n'a pas l'écoute de la ville, même s'il est très actif. Ses rapports annuels et ses mémoires sont substantiels et rigoureusement structurés, notamment au sujet du besoin d'orientation plus claire sur le modèle à promouvoir. Ces textes restent cependant la plupart du temps lettres mortes. Un conseiller de première ligne écrivait que rien n'a été fait pour relayer les propositions et les questions du CIM. Toute la documentation que j'ai consultée sur le sujet est accessible sur Internet. Je signale tout particulièrement un document synthèse publié par le CIM en 2019 qui énonce d'une manière très cohérente les principes et les modalités d'une véritable politique interculturelle adaptée à la réalité montréalaise. Le document est assorti de diverses recommandations propres à orienter concrètement l'action des dirigeants. Selon mes sources d'information, cette initiative n'a pas eu d'effet. On ne sait pourquoi. On trouvera aussi sur Internet les rapports annuels d'activité du CIM depuis 2003-2004. Chacun présente de nombreuses formules destinées à éclairer les divers aspects de la diversité montréalaise, le tout convergent vers une démarche générale intégrée. Au fil des ans, on voit donc se déployer dans cet organisme un ensemble de réflexions, d'expériences et de réalisations témoignant d'efforts méritoires de la part d'équipes enthousiastes de bénévoles dont la contribution est bien mal récompensée. Il y a là une somme d'idées prometteuses et de savoirs concrets restés inexploités. On déplore qu'un tel bouillonnement d'idées ne trouve pas preneur auprès des autorités métropolitaines. Le CIM poursuit néanmoins ses efforts et attire des membres compétents et dévoués, des bénévoles avec des parcours remarquables issus de divers secteurs du travail et de la vie institutionnelle québécoise. En dépit de son modeste budget et d'un contexte peu favorable, l'organisme est parvenu à entretenir des liens de coopération avec divers acteurs au Québec, au Canada et à l'étranger. Le CIM favorise l'interculturalisme comme cadre d'inclusion, mais pour des raisons difficiles à comprendre, l'idée reste lettre morte. On en vient à penser qu'au fond, sans le déclarer publiquement, des élus ont une préférence pour le multiculturalisme ou simplement pour le laisser faire, ce qui s'équivaut pratiquement dans le contexte montréalais. La Ville devrait s'engager dans un débat public pour affirmer son choix et articuler sa vision. Elle ne le fait pas. Une ressource sous-exploitée. La Ville de Montréal a été admise en 2011 comme membre du prestigieux programme des cités interculturelles piloté par le Conseil de l'Europe. C'était dans la foulée d'un symposium international que j'avais organisé avec une grosse équipe. J'avais d'abord plaidé auprès des autorités du Conseil de l'Europe, puis auprès du maire Gérald Tremblay, qui s'était facilement laissé convaincre. Je ne veux pas exagérer mon mérite. Le terrain avait déjà été bien préparé par de proches collaborateurs et collaboratrices du maire et d'autres experts. Le moment était important et on s'en réjouissait de part et d'autre. Ce grand réseau international des cités interculturelles, unique en son genre, a pour mission d'aider les villes participantes à échanger sur leur mode de gestion de la diversité tout en mettant en avant les principes interculturels. Chaque membre y trouve à s'instruire à même les expériences originales des autres membres, en plus de faire valoir les siennes. Une sorte d'émulation s'engage ainsi dans la collaboration. Mais une fois passé le moment de réjouissance, d'une manière inattendue, la Ville ne s'est pas engagée à fond dans le projet. Elle s'en est même en grande partie détournée pendant plusieurs années. En 2011, elle avait déclaré sa volonté de s'affirmer comme une ville exemplaire. Néanmoins, lors d'une visite d'évaluation par des envoyés du réseau des cités interculturelles en 2019, Montréal a eu droit à quelques critiques, mais aussi à des félicitations, et ce, à la grande surprise des personnes bien informées de ce dossier. La Ville avait présenté un rapport synthèse des plus convaincants de ses activités. Encore là, rien de significatif n'a été réalisé depuis. Des membres actuels du CIM m'ont informé récemment qu'ils n'avaient jamais entendu parler du programme des cités interculturelles. S'ajoutent à ces difficultés des rapports plutôt tendus entre Montréal et le gouvernement québécois. C'est une autre source d'empêchement qui ne sera pas abordée ici. Mais on voit qu'il est urgent de passer à l'action si l'on tient vraiment à établir le statut de Montréal comme ville francophone. C'était « Où en sommes-nous avec la diversité à Montréal? » Un texte de Gérard Bouchard, paru le 31 janvier 2026 dans Le Devoir.
Passagers moins dodus, donc plus gros profit grâce à l'Ozempic. Un texte de Gabe Castro-Root du New York Times, paru le 21 janvier 2026 dans La Presse. Les médicaments amaigrissants comme Ozempic transforment la vie de millions de gens grâce à leur administration simple et à leur effet rapide. Or, les kilos en moins pourraient aussi aider la santé financière des compagnies aériennes en allégeant les avions. Des passagers plus sveltes requièrent moins de carburant. Selon une étude récente du cabinet conseil Jefferies, les quatre grands transporteurs américains, American, Delta, Southwest et United, pourraient économiser ensemble jusqu'à 580 millions de dollars américains par an en carburant grâce au médicament GLP-1. Selon Shaila Kayaglou, analyste boursière chez Jefferies et auteur de l'étude, ce constat n'a rien de surprenant. Il est logique que le poids des passagers ait un impact sur leurs coûts, note-t-elle, ajoutant que les transporteurs sont toujours à l'affût de moyens d'alléger leurs avions. Un adulte américain sur 8 prend un GLP-1, révèle un sondage publié en novembre 2025 par l'OSBL de recherche en santé KFF. Le carburant est un des principaux coûts en aviation. Jefferies estime que les quatre compagnies aériennes paieront 38,6 milliards US pour les 60 milliards de litres qu'elles utiliseront en 2026, soit 20% de leurs dépenses totales. Les passagers moins dodus permettraient d'économiser 1,5% de ce coût. Ça semble peu, mais pas aux yeux des transporteurs. Et des pilotes scrutent déjà chaque petit changement apporté au poids d'un avion. Tout allègement permet d'utiliser un peu moins de carburant pour chaque vol. Des profits plus gros? En revanche, les GLP-1 pourraient engraisser les investisseurs. Une réduction de 2% du poids des avions augmenterait le bénéfice par action de 4%, selon l'étude. Madame Kayaoglou ne s'attend pas à ce que les transporteurs achètent moins de carburant après avoir lu l'étude. Elle souligne cependant que les médicaments amaigrissants pourraient avoir un impact à la baisse sur leurs revenus secondaires si les passagers achètent moins de collations. Air New Zealand, Finnair et Korean Air ont déjà été critiqués pour avoir pesé certains passagers à l'embarquement pour les répartir dans l'avion. Cette pratique est plus courante à bord des petits avions où un léger changement dans la répartition du poids peut affecter la stabilité. Mais même de grandes compagnies aériennes ont déjà poussé très loin leur quête de légèreté et d'économie. Ainsi, il y a 40 ans, American a retiré une seule olive de la salade de chaque passager, économisant ainsi 40 000 $ par an en frais de nourriture et de carburant. Les transporteurs ont toujours été obsédés sur le poids, qu'il s'agisse des olives, sans noyaux bien sûr, ou de tout le papier embarqué, indique le rapport. Le tour de taille des passagers a, jusqu'à présent, échappé à leur contrôle. Aucun des quatre transporteurs n'a souhaité commenter le rapport. C'était « Passagers moins dodus, donc plus gros profit, grâce à l'Ozempic », un texte de Gabby Castro-Root du New York Times, paru le 21 janvier 2026 dans La Presse.